应该是打高尔夫了。
Au revoir les enfants. À bientôt.
Au revoir mon père.
Au revoir mon père.
Au revoir mon père.
I love you, but you don't know what you're talking about.
I love you too.
Elle vous a trahi et vous n'avez jamais compris pourquoi.
Comment savez-vous toutes ces choses ?
Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission de cinéma sur Transistor. Cette semaine, notre toile accueille le noir et blanc délicat du dernier film de François Ozon, Franz. Et aujourd'hui, ce sont Mathias et Aurore qui joignent leurs yeux aux miens pour en discuter. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour Rémi.
Alors nous sommes en 1919, dans une petite ville d'Allemagne. Les époux Hofmeister vivent dans le souvenir de leur fils disparu Franz, avec celle qu'il allait épouser et qu'ils ont recueillie, Anna. Un jour, en allant fleurir sa tombe, la jeune femme rencontre un Français venu s'y recueillir. Anéanti, il se présente comme un ami très proche du jeune homme quand celui-ci faisait ses études à Paris. Invité chez les parents éplorés, il fait peu à peu revivre le fils disparu, le fiancé aussi. Et imperceptiblement, Anna s'éprend de ce Français qui l'extirpe d'un deuil où elle se morfondait. Mais ce n'est là que le début du film, car cet Adrien Rivoire révèle brutalement l'étouffant secret qui l'a amené en Allemagne avant de s'enfuir à Paris. Et face à ce qui s'apparente à un second deuil, Anna décide d'aller l'y retrouver. Difficile de ne pas en dire plus tout de suite, mais je m'arrête ici pour l'instant. Je me tourne vers vous, Mathias, Aurore, pour connaître votre avis sur le film.
Mais je trouve que l'adjectif délicat est très approprié pour ce film, et c'est vraiment ce que j'ai ressenti.
Oui, délicat, parfois jusqu'au mielleux. Enfin, ce qui est un peu. Comment dire ? Un peu sirupeux. Enfin,
ouais.
Bah, certains. Pas l'intégralité du film, mais du coup, parfois le délicat tombe un peu dans le. La dentelle.
Et aussi dans la facilité, j'ai trouvé.
Oui, oui, il y a des artifices un peu faciles.
Oui.
Eh bien, alors, je suis d'accord avec vous et c'est ce que j'ai aimé. C'est-à-dire que. Bon, il faut savoir que le film est une adaptation d'un drame peu connu de Lubitsch qu'il avait fait dans les années 30, en 1931. Et on retrouve vraiment cet esprit mélo des années 30-40, avec des sentiments, beaucoup de sentiments très très premier degré finalement, qu'on n'oserait plus en filmer aujourd'hui. Mais dont Ozon s'empare, qu'il ose porter à l'écran et qui verse peut-être parfois dans le mielleux, mais c'est toute une époque aussi. C'est vraiment ce que j'ai aimé dans ce film. Il y a un côté Ophuls dans la tristesse de cette femme. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé cet aspect-là, presque justement ce courage de ne pas reculer devant ce qu'on pourrait considérer comme étant mielleux aujourd'hui.
Bah, à un moment dans le film, je me suis demandé si c'était pas un peu les souffrances du genre Pierre Niney. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de scènes où on le voit, il pleure. Mais il y a aussi, voilà, ça rejoint une esthétique de. On ne cache pas les larmes, où les sentiments sont très. Sont pas masqués, il n'y a pas de dramatisation. Enfin, si, il y a une dramatisation des sentiments, mais qui sont vraiment que du côté des acteurs et pas forcément dans le. Dans la mise en scène, parce que enfin, les acteurs sont vraiment très premiers dans leurs sentiments. Et oui, dans ce que tu disais, dans l'esthétique du mélodrame, il va jusqu'à refaire une esthétique de carte postale. Puisque enfin, dès la première scène, parce que c'est une sorte de paysage, très, on a l'impression que les scènes en couleur sont des scènes en noir et blanc recolorisées.
Oui, parce qu'alors il faut préciser que à quelques occasions dans le film, les moments où les personnages parviennent à oublier le deuil, ces quelques instants, d'un coup le film repasse en couleur, et c'est vrai que cette couleur se surimprime presque.
Mmh. Oui, ça m'avait pensé aux documentaires type Apocalypse ou même surtout les cartes postales de l'époque qui étaient des en noir et blanc et recolorisées à la main.
Là aussi, l'usage de la couleur, j'ai trouvé ça beaucoup trop facile. De vouloir signifier par la couleur l'allégresse.
Ben, je trouve ça d'une forme de simplicité presque naïve, mais qui me touche. Je vais revenir sur ce que tu disais, Mathias, tu parles des souffrances du jeune Pierre Niney, et justement, je trouve que ce qui est vraiment frappant dans ce film, et ce que ne laissait pas du tout attendre la bande-annonce, c'est que Pierre Niney se cantonne presque à un rôle de faire-valoir. Oui. C'est-à-dire que Franz, c'est le MacGuffin complet. Franz est un prétexte, voilà. Et Adrien se révèle finalement faible, lâche. Les hommes sont très vite évacués dès l'arrivée de Anna à Paris, avec un passage très très cruel. Il y en a d'autres, mais celui-là particulièrement. Et à l'inverse, le personnage d'Anna, porté par cette actrice assez impressionnante qui est Paula Bear, ouais, et qu'on découvre avec une forme de stupéfaction, porte véritablement le film.
Oui, parce que c'est vrai que la bande-annonce ou même la publicité autour du film, sans doute en France, met en avant Pierre Niney, jeune premier, voilà, très prometteur, acteur français. Et c'est vrai qu'il passe très vite au second degré, et même dans les passages très dramatiques où il pleure sur la tombe, c'est Anna, enfin le point de focal il est sur Anna. Lui, bon, c'est un peu le personnage un peu falot qui porte évidemment tout le drame du film, et même le drame qu'il porte, que je ne dirai pas. Enfin, elle est assez vite évacuée en fait, puisque c'est quasiment au milieu du film. C'est certes le point de bascule du film, mais la fin ne porte pas là-dessus.
Ah oui, complètement. Et on se rend compte petit à petit que le film s'attache vraiment à suivre Anna. Ça montre une fois de plus l'intérêt d'Ozon pour les personnages féminins aussi. Et vraiment, le mélodrame s'attache plus à accumuler toutes les souffrances sur ce personnage de jeune fille qui porte aussi tous les secrets du film, qui est la seule à savoir tout ce qui se passe et qui est finalement la seule à ne rien pouvoir faire contre tout ça. Et c'est là que le mélodrame est pour moi très très efficace, c'est-à-dire qu'il fait vraiment gonfler, il fait vraiment porter tout le poids du film sur ce personnage qu'on suit du début à la fin pour tout faire éclater dans les deux dernières scènes finales. Et je trouve ça très beau aussi dans la façon dont ça passe par son regard, qui est vraiment omniprésent.
Un regard fascinant.
Bah, la fin, sans dire la fin, mais
oui.
la dernière image, le dernier plan,
oui.
Oui, voilà, ce dernier plan, on termine dans son regard et tout le film, et on a l'impression qu'il y a tout le film qui est dans ses yeux.
Il y a son regard, il y a ce qu'elle dit, qui est très perturbant et... Mais sans en dire plus, mais c'est vrai que oui, elle a un regard à l'écran, et tout le film est aussi vu par son regard à elle, et parce qu'elle voit des deux sociétés dans lesquelles elle évolue. Parce qu'il y a ce jeu de miroir entre la société allemande de la Reconstruction et la société française, et je pense qu'Ozon penche plutôt du côté allemand, compte tenu de la vision de la France d'après-guerre, enfin de l'immédiate après-guerre. Là où il y a plutôt de l'empathie du côté de la famille Hofmeister. Là où il y a quand même plutôt une distance vis-à-vis notamment de la bourgeoisie, aristocratie française et parisienne.
Oui, malgré tout, il montre une Allemagne qui est déjà en train de sombrer dans les prémices du nazisme.
Ce qui la rend sans doute plus complexe et plus intéressante que l'euphorie un peu grasse et un peu facile de la France 1919.
Et c'est intéressant, justement, même d'un point de vue politique, à quel point ce film joue sur les illusions, y compris avec nous, et sur les désillusions, perpétuellement. Les deux parties du film sont l'illusion d'un pardon dans une première partie, l'illusion de la réparation dans la deuxième, parce qu'elle vient en France pour tenter de réparer tout ce qui s'est écroulé à la fin de la première partie, et ça se termine sans qu'elle y soit parvenue. Et même dans les procédés narratifs, sans arrêt, on nous tend des perches, et puis au moment où on va l'attraper, on nous la retire, et vraiment, ça nous promène un peu partout comme ça.
C'est aussi un film que j'ai trouvé très mélancolique à différents niveaux. Il y a l'histoire très personnelle du deuil et de la reconstruction personnelle qui passe par des subterfuges et par des juxtapositions, comme si chaque personnage est un peu en quête identitaire, notamment Pierre Niney. Il y a cette scène où il rentre dans sa chambre d'hôtel et où il regarde dans le miroir et il se voit Franz. comme si allemand et français ne faisaient plus qu'un. Il y a une scène dont je ne dévoilerai pas le contenu, mais où on voit comme une proximité entre Franz et Adrien, le français. Il y a Anna qui se cherche un peu. Est-ce que du coup elle n'a plus de famille? Elle vit encore chez les parents de son fiancé. En même temps, elle est courtisée ailleurs. Tous ces personnages se cherchent. Et après, il y a la mélancolie de Donation, puisque on voit l'animosité allemande envers les Français du côté allemand. Alors que nous, public français, on a plutôt les images du mauvais allemand. Et du coup, une réconciliation en fait, qui finalement... Enfin, on se demande à la fin du film si elle est vraiment possible. Et sans doute pas.
Et ce personnage est un petit peu coincé à la frontière entre ces deux parties irréconciliables, parce qu'elles sont tout simplement séparées par le carnage, la mort, l'assassinat.
Moi, j'aimerais revenir sur la désillusion.
Je t'en prie.
Eh bien, j'ai trouvé ça trop bien. je veux dire, pour moi, tout le film est centré sur cette désillusion qu'on retrouve à ces deux niveaux, aussi bien historique et plus individuel. Comme si ce mélodrame romantique sur l'amour perdu, etc., était mené pour nous montrer que, historiquement, c'est aussi ce qui se passe, cette désillusion, cette France et cette Allemagne qui, en tout cas en 1919, ne peuvent pas se réconcilier. C'est ce que tu disais, Mathias.
Oui, parce que là, tous les personnages se nourrissent de mythes. Il y a la poésie qui est très importante, où on cite Verlaine plusieurs fois, comme si ça allait nous bercer, nous consoler. Il y a l'image de la vie parisienne, on va au musée, on fait de la musique, qui finalement est une forme de consolation, puisque c'est ce qu'on raconte pour se faire du bien, pour s'imaginer aussi un passé.
Et malgré tout, au musée, qu'est-ce qu'on va voir ?
Oui, voilà, qu'est-ce qu'on va voir au musée. Mais c'est aussi on se rappelle un peu de façon thérapeutique la vie d'avant-guerre.
Ça, je suis d'accord. Et c'était très intelligent, cette... comment dire ? Quand il y a... Sans spoiler, c'est dur. Quand il y a invention, il y a ce doublage, ce doublement des voix, comme si quand Anna invente le discours rapporté d'un des personnages, on entend la voix de ce personnage dire ses propres mots, comme s'il avait vraiment dit la chose, alors que ce n'est que...
Oui, il y a un jeu sur les mensonges, mais aussi des mensonges qui d'ordre temporel entre le passé et le présent, qui est extrêmement complexe. Et oui, ça fait vraiment de ce film un grand film mélancolique, un grand film désillusionné aussi. Et puis un film qu'on vous encourage donc fortement à aller voir. Finissons avec quelques suggestions pour vos sorties cinéma de la semaine. Et je commence avec Clash de Mohamed Diab, qui vous fait vivre une plongée d'une heure et demie dans un fourgon de police pendant les émeutes qui ont déchiré le Caire après la chute des frères musulmans en 2013. Sont enfermés dans cet espace exigu des manifestants des deux bords, forcés de cohabiter, voire de s'entraider. La mise en scène et les dialogues exigeants servent un film énergique et puissant dont nous vous reparlerons la semaine prochaine. Et puis, la grosse sortie de cette semaine, Juste la fin du monde de Xavier Dolan, qui filme le retour d'un jeune écrivain à succès dans sa famille, le temps d'une après-midi où il va lui annoncer sa mort prochaine. Le casting alléchant, allié au talent de Dolan pour pousser ses acteurs à bout et les sublimer dans l'explosion de leurs émotions, laisse présager un grand moment de cinéma, de même qu'une bande-annonce qui donne déjà des frissons. Enfin, cette semaine, vous pouvez aussi revoir des films. L'Institut Lumière consacre entre autres 10 jours à Houssia Hossein, et projette les premiers films du grand maître taïwanais dont nous avions entre autres chroniqué The Assassin ici même l'an dernier. Le même Institut Lumière organise une nuit Batman ce samedi 24. 4 films de Batman seront projetés pendant toute la nuit, 2 de Tim Burton, 2 de Nolan. Le petit déjeuner est offert le matin. Pour les amateurs de films d'action, c'est à ne pas rater. Et puis, dans un genre complètement différent, ce 27 septembre à 20h au CNP Terreau, sera projeté Sans toi ni loi, en présence de la réalisatrice Agnès Varda. Le film a obtenu le Lion d'Or en 1985 et retrace le parcours d'une jeune SDF retrouvée morte de froid avec une humanité bouleversante. Voilà, d'étoiles plein les yeux, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Mathias et à Aurore pour leur participation, et à la semaine prochaine sur Transistor.